Imi News, le magazine de l'immobilier d'entreprise, en coproduction avec le CIMI sur Radio Imo.
Salut à tous, merci d'être avec nous, CIMI News, saison 2, épisode 2, bienvenue. On est ensemble pour une petite heure pour parler de sujets toujours très intéressants qui nous touchent au quotidien. Je vous propose qu'aujourd'hui on évoque un sujet qui va beaucoup nous plaire parce qu'il recouvre beaucoup plus d'aspects qu'on ne le croit, c'est la ville inclusive. Pour parler de ce sujet, on s'est dit qu'on allait faire un casting de rêve pour parler de ces sujets-là, très important aussi pour nous, en perspective de tout ce qui sera décliné pour les contenus du CIMI cette année, celle par laquelle d'ailleurs cette émission a vu sa réalisation. Elle est la coproductrice d'ailleurs de l'émission, directrice du CIMI, Aminata est avec nous. Salut Aminata.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Je suis ravi. Voilà, deuxième émission. Voilà, deuxième émission du CIMI News. Ça se précise. Hein. Là, c'est de quoi? Dans 4 mois, 5 mois?
Oui, je te fais confiance. Je ne compte plus. Mais oui. Et puis, il y a le City by CIMI.
Et il y a le City by CIMI. Puis, on y est tout
un
droit.
Et bien, enfin. Ouais, exactement.
Et enfin, on sort du tunnel parce que tout le monde sera là. Et il y a une envie incroyable des gens de se déplacer.
On a envie de se retrouver.
Ouais.
Laissons le digital.
Ouais, exactement.
Ouais,
Laissons le digital, oui. Enfin, ça nous a quand même bien rendu service. Karine Robert est également avec nous.
Bonjour.
Comment ça va, Karine?
Très bien, merci.
J'adore votre prénom.
Pourquoi?
C'est le prénom de ma femme.
Ah ben voilà, c'est normal, ça on l'a fait souvent.
Karine, vous êtes directrice générale de Synergie Urbaine by ICAD.
Yes.
Voilà, ça c'est un nom que j'adore, Synergie. Parce Synergie que dans ce urbaine. Mot-là, il y a toutes les disciplines de la ville.
Tout à fait, c'est ça. Synergie Urbaine, c'est effectivement un ensemblier urbain, un aménageur, ouais. Un opérateur, un faiseur de ville, de ville inclusive.
Ouais, j'adore cette idée parce que la notion d'ensemblier urbain, il y a presque, quand on parle d'ensemblier urbain, une notion esthétique de la ville. Et j'aime bien cette vision esthétique auquel tout le monde a droit. Alors, Frédéric Motta est également avec nous.
Bonjour.
Comment ça va, Frédéric?
Très, très bien.
Je suis ravi d'être avec vous. Directeur général France pour la Belgique et le Luxembourg, pour, on dit Wired Score?
On dit Wired Score, exactement, on dit Wired Score pour parler de connectivité historiquement. Donc, Wired Score, en quelques mots, a pour mission d'améliorer la technologie des immeubles pour en améliorer l'usage. Donc on ne voit pas la technologie comme une fin en soi, on la voit comme un moyen pour justement améliorer.
On n'est plus technocentrique, on est human-centrique maintenant.
Exactement.
Absolument. C'est un changement de paradigme important. Ça fait un peu genre j'ai bûché la note technique, mais quand même, ça recouvre des réalités. Et la domination aujourd'hui qui est très forte, et je trouve ça très positif, c'est la maîtrise absolue des usages. Et c'est ça qui domine aujourd'hui notre façon de penser, notre façon de concevoir cette nouvelle urbanité. On entendra aussi tout à l'heure, ma chère Aminata, Patrick Amicot, adjoint au maire auprès du maire de Marseille, qui est en charge notamment des questions liées au logement et à la lutte contre l'habitat indigne. C'est un vrai sujet parce qu'en France, il y a 5 millions de personnes mal logées en France, 2,5 millions de personnes inscrites sur des listes de bailleurs sociaux depuis plus de 5 ans. Et environ, on estime à peu près 750 000 familles qui vivent dans des états indignes, indécents, et qui ont une incidence très forte, notamment sur la santé publique. Et Dieu sait qu'à Paris, c'est un vrai sujet. Et à Marseille, il y a eu des drames. Hein, on connaît le drame de la rue d'Aubagne et d'autres immeubles, parce qu'enfin, on a découvert que les immeubles avaient une vie presque organique, et qui pouvaient se contaminer les uns les autres. Et une ville inclusive, c'est une ville aussi qui, effectivement, tient compte de ces sujets et qui ne les élude pas. Voilà. Donc c'est important qu'on en parle. Donc Patrick Amicot va nous en parler. On écoutera aussi quelqu'un qu'on connaît bien ici sur Radio Imo, qui a des idées bien tranchées. Hein. Il est dans l'équipe d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. C'est Yann Brossa, adjoint à la maire de Paris. Il est en charge du logement. Il était là dans la première mandature. Il est là dans la deuxième mandature d'Anne Hidalgo. Il va nous parler un peu de son sujet, mais c'est intéressant parce que ces visions qui se confrontent au niveau de l'urbanité, au niveau de la façon dont on conçoit la ville, ça nous permet aujourd'hui aussi de donner beaucoup de vitalité au débat. Et je pense que c'est comme ça que les idées, elles sortent. Voilà. Alors, on va rappeler quand même quelques dates importantes. Le City by CIMI, cette année, c'est une année absolument exceptionnelle parce qu'elle anticipe aussi un débat présidentiel à venir avec des grandes élections. Une sortie de confinement, on est tous ravis. Un bouton on-off où on voit une économie qui repart de plus belle. Hein. Bon, c'est pas de la méthode Coué, mais c'est une vraie réalité. Ça veut pas dire que tout va bien. Hein. C'est pas ce que j'ai en train de dire. Mais que quand même, dans notre écosystème, on est quand même content de voir les indicateurs relativement positif sur pas mal de sujets. Et le CIMI, cette année, va beaucoup travailler sur ces questions. Et je pense que tout le monde sera ravi d'échanger là-dessus, n'est-ce pas, Aminata ?
On sera ravi. Et surtout, on a déjà beaucoup de conférences organisées par nos exposants, nos partenaires, sur des sujets comme les défis climatiques, les sujets RSE. En fait, ce sont des sujets, des enjeux qu'on a vus s'accélérer grâce à cette pandémie et qui rentre également dans le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est la ville inclusive, puisque tous ces enjeux qui sont les défis climatiques, les enjeux sociétaux, les enjeux démographiques rentrent en fait sont des enjeux qui permettent aussi à l'industrie immobilière d'avoir un dialogue constructif avec les territoires, les métropoles, pour pouvoir répondre aux questions. Et surtout, on sait que nos territoires et nos métropoles sont différentes. Et l'industrie immobilière, grâce aux innovations qu'elle porte, peut répondre à la question de la ville inclusive sous différentes formes.
On va rappeler les dates. Hein, du 8 au 10 décembre au Palais des Congrès à Paris. Donc concomitamment, CIMI et City by CIMI.
Exactement, voilà. Au Palais des Congrès. Donc quatrième niveau, on aura le City by CIMI qui permet... j'aime bien ce terme de dialogue entre les métropoles, les élus, les territoires et l'industrie immobilière. Parce que, comme le disait à l'instant Karine, faiseur de ville, et on fait cette ville en dialoguant avec différents partenaires. Ça peut être même avec les citoyens. Tu parlais de Marseille, l'habitat indigne. On parle aussi de la démographie, de cette différence de population qu'on peut avoir dans la métropole de Marseille, qui est différente entre Aix-en-Provence, les quartiers nord. Et l'inclusion, ça passe aussi par inclure toutes ces populations dans la ville, faire une qualité de vie pour tous et qui est quelque chose d'équitable. Et moi, je suis persuadée, c'est pas parce que j'organise le CIMI, que c'est grâce à ce dialogue avec l'industrie immobilière. L'industrie immobilière, c'est très large. Il y a 20 ans, lorsque le CIMI a existé, on parlait que du bâtiment. Aujourd'hui, on ne peut plus parler que du bâtiment. On parle du bâtiment, de son environnement, de l'accessibilité de ce bâtiment, comment est construit ce bâtiment, comment ce bâtiment peut être flexible. Est-ce que ça va être que du logement ou que du bureau ? Et d'autant plus cette année où on a vu vraiment que les choses évoluent très rapidement.
Alors justement, on va anticiper sur cette première séquence effectivement qui nous attend, puisque c'est une tradition maintenant avec Aminata que nous avons dans le CIMI News. C'est l'heure de l'édito. Une ville, pour vous Aminata, c'est une ville qui se définit comment ?
Une ville inclusive, qui n'exclut pas.
Voilà, c'est une ville qui est une ville qui... Est-ce que la mixité... sociale, la mixité fonctionnelle, on en rêve tous hein, de cela. Les luttes contre les formes de gentrification urbaine qui est une réalité, qui est un phénomène sociologique. Est-ce que cette nouvelle anthropologie des villes, elle est aujourd'hui réversible ? Est-ce qu'on peut vraiment arriver à inclure des populations, des classes moyennes qui aujourd'hui, il faut le constater dans certaines métropoles, fuient les grands centres urbains ?
C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et puis, on voit encore aujourd'hui des populations urbaines qui vont dans des villes moyennes. Comment les inclure ? Est-ce que ces populations qui vont dans les villes moyennes, ça va être à long terme ? La question se pose. Mais c'est ce qui est aussi stimulant, parce que c'est toujours une réflexion, un travail ensemble. Donc... Évidemment qu'aujourd'hui, la ville, les citoyens, les élus, l'industrie immobilière, elle est là pour accompagner tous ces changements.
Alors, l'accompagnement des changements, qui sont des changements liés à la fois aux infrastructures, mais aussi sur les modèles de gouvernance, sur la réflexion et l'incursion, ou peut-être la marge de manœuvre que peuvent avoir les politiques dans des partenariats aujourd'hui qui deviennent de plus en plus harmonieux avec des convergences d'objectifs de la puissance locale et les acteurs privés aussi. Et d'ailleurs, au CIMI, on aura des personnes, des personnalités publiques qui viendront aussi échanger. Voilà, ça nous donne les bases, les amis, d'un sujet, finalement un sujet inépuisable, puisqu'on ne cessera jamais d'en parler, parce que ce sont des sujets qui nous touchent ici, pour les professionnels, à double titre. D'abord parce que vous faites la ville, et puis là, aussi parce que vous y vivez, tout simplement. Vous êtes à la fois le tiers et celui qui fait, comme dirait l'autre. C'est parti pour le débat. Donc c'est parti pour ce débat sur la ville inclusive. Je vais commencer par vous, Karine Robert. Tout à l'heure, on va écouter des personnes de la puissance publique, hein, adjoints aux villes, qui sont les premiers exposés, en fait, dans cette forme de nouvelle urbanité. Moi, j'aime bien le mot urbanité parce que ça recoupe beaucoup, beaucoup de choses. Et est-ce qu'aujourd'hui, la ville inclusive, au-delà des incantations, des mots... Alors vous avez une tâche extraordinaire, vous êtes un ensemblier urbain. C'est-à-dire que vous avez une polytechnicité au sens étymologique du mot. Vous êtes à la fois assistante sociale, psychothérapeute, psychanalyste, technicienne, électricienne. Vous connaissez le granulat, le béton, les ossatures, etc. C'est extraordinaire comme métier.
Oui, c'est un métier tout à fait extraordinaire.
Alors comment vous abordez cette forme de nouvel, on va dire, de nouvel ensemble urbain, et quels sont les défis que vous êtes prête à relever ?
Alors, j'ai déjà envie de répondre à une première question que tu as introduite tout à l'heure. C'est, pour moi, la ville, en fait, c'est un bien commun. Effectivement, l'urbanité est tout à fait importante. Et en fait, c'est quoi la ville ? Elle ne nous appartient pas. On y est, on y vit. Et aujourd'hui, c'est un bien commun. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que dans la ville inclusive, il y a l'idée... Bien évidemment, on a déjà commencé à parler des acteurs. On est nombreux autour de la table à fabriquer cette ville. C'est aussi, quand on fabrique une ville, c'est aussi... comment dire, il faut faire preuve aussi de beaucoup d'humilité, puisque elle n'appartient à personne, elle nous appartient à tous. Dans ce sens-là, c'est un bien commun qui est tout à fait extraordinaire. C'est aussi la ville, c'est aussi l'utilité publique. Avant l'impact social et l'intérêt social, tout ça, c'est un lieu. Il faut faire ce métier, on le pratique tous de toute façon, avec ce sens de l'utilité publique. Donc avec tout ça, effectivement, il faut bien sûr des convictions fortes pour pratiquer l'immobilier pour une ville inclusive. Alors chez UCAD, vous le savez, c'est partie intégrante de notre raison d'être. C'est même inscrit dans notre raison d'être. Je ne vais pas la citer entièrement, mais effectivement, on évoque les lieux de mixité et les lieux inclusifs dans notre raison d'être. C'est un engagement qui est sociétal, qui vise une performance économique d'une entreprise. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est comment, effectivement, on va intégrer ces enjeux sociétaux au sein des territoires sur lesquels on habite, on travaille, on s'amuse et on les fabrique. Effectivement, il y a différents leviers. Et puis, il y en a un qui est important. C'est, on le citait tout à l'heure, avec ce qu'on a vécu. Je n'ai pas envie de parler de crise. Je n'aime pas du tout ce mot de crise. C'est le contexte sanitaire et économique qu'on a vécu. Effectivement, à accélérer des tendances. Donc, elle a accéléré les tendances numériques, les tendances, la mobilité. Finalement, on n'a plus de sens. Est-ce que ça a du sens de configurer la ville en disant, tiens, c'est quoi la distance entre le domicile et le travail? Ça, évidemment, ça n'a plus de sens aujourd'hui, puisqu'on est dans cette accélération de tendances où on vit d'ailleurs des clivages ou en tous les cas des distorsions aujourd'hui entre... puisque toute période de changement nécessite une adaptation. Donc aujourd'hui, on est encore dans ces tiraillements. Est-ce qu'il faut aller au bureau? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Est-ce qu'il faut, où est-ce qu'on habite? À la campagne, à la ville? Est-ce que ça veut dire quelque chose, campagne-ville? Voilà, donc c'est la ville inclusive dans tout ça. Waouh, c'est un vaste sujet.
On pourrait même dire que c'est un sujet... Moi, j'aime beaucoup utiliser le mot parce que j'en ai pas trouvé d'autre. J'appelle ça une modification anthropologique. Est-ce qu'on pourrait dire... que la ville inclusive ou la modification que l'on vit à une vitesse sans précédent est une nouvelle forme anthropologique d'habiter, un art d'habiter.
C'est un art d'habiter, c'est un art d'habiter, de travailler, de se divertir, puisque la ville, c'est tout ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, Karine Romer, dans la ville, des villes ?
Il y a dans la ville des villes. Il y a la ville...
Est-ce que la polycentralité urbaine... Au-delà du concept qui est vachement séduisant, parce que ça permet effectivement d'entrer dans, on appelle ça la ville du quart d'heure, hein, c'est ça l'idée, hein, avec les mobilités douces, etc., pour démobiliser, c'est-à-dire démobiliser ou décentraliser pour travailler sur cette polycentralité ou polycentrique, comme on voudra l'appeler, il faut créer des lieux de vie qui sont multiples. Donc une ville, c'est des villes.
Ça fait partie de la vertu, en fait, du contexte qu'on a vécu, c'est que justement, ça y est, on est dans la polycentralité à l'échelle d'une métropole comme le Grand Paris, et à l'échelle, évidemment, d'un territoire. La ville du quart d'heure, il y a aussi la ville de l'heure. On prend la métropole de Tours. La métropole de Tours est située à 1h10 de Paris, et située au sein de la métropole de Tours. On est dans l'heure pour accéder à un bassin d'emploi. Donc tout d'un coup, on a aussi toutes ces métropoles régionales qui prennent toute leur attractivité qu'on a vu traduit par les chiffres, mais qui sont tout simplement, effectivement, le fait d'être dans des bassins d'emploi. J'aime beaucoup, moi aussi, rappeler simplement qu'en France, quand on pratique, d'abord, on est quasiment le seul pays à avoir ce métier d'urbaniste, enfin de faiseur de ville, qu'on soit maîtrise d'ouvrage, maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, ou maîtresse d'ouvrage d'ailleurs, on a effectivement cette pratique de l'aménagement et de l'urbanisme en France. Et en fait, on sait faire la ville, on sait faire des villages urbains. On dit Marseille, effectivement, c'est la ville des mille et un villages. On a déjà cette pratique.
Mais oui, ce que vous dites est très juste. Et d'ailleurs, on peut le dire, parce que souvent, on fait du bashing à la française, mais il ne faut pas oublier que la France a inventé les premières règles de l'urbanisme. Pas plus tard qu'il y a maintenant 150 ans, ce quartier était tout à fait l'illustration d'une friche urbaine. Sur la rue Remur, il y avait une rue, par exemple, qui a été... C'est aussi déconstruire pour reconstruire, en préservant les identités. Parce que quand on fait votre métier, Karine, ça ne va pas être évident, parce que quand vous arrivez sur du sol qui est déjà bâti, qui est déjà largement artificialisé, là on vous dit, là, bah, tu vois, là, il va falloir que tu repenses quelque chose, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un département ou à l'échelle même d'une ville.
Oui, alors je voulais vous citer un exemple qui me paraît bien illustrer la ville inclusive, c'est le quartier Orgemont à Épinay-sur-Seine.
Que je connais très bien, magnifique.
Bon. Magnifique quartier, 3 500 logements, donc c'est à peu près 10 000 habitants dans ce quartier. Et c'est un quartier qui a été construit par donc la SIC à l'époque, hein, donc en 1956, à la suite, ou au même moment en tous les cas que l'appel de l'abbé Pierre. La SIC, souvenez-vous, c'est la Société Centrale Immobilière de la Caisse. À l'époque, qu'est-ce qu'elle a fait, la Caisse ? Au-delà de son utilité, de sa mission d'utilité publique ou d'intérêt général, elle est allée s'investir dans l'urbanisme et la construction, et elle a porté ce type de sujet avec l'urbanisme de grands ensembles qui a ses qualités et ses défauts, bien évidemment. À l'époque, rappelons qu'il y avait l'insalubrité qui était très présente.
Et pour rappeler qu'à Noisy-le-Grand, il y avait des bidonvilles, qu'il y en avait dans tout aux abords de Paris, et qu'on était très contents d'avoir ces grands ensembles.
Exactement. Et donc, elle a répondu à cette, évidemment, à l'insalubrité qui était là. La Caisse, à travers donc son volontarisme, effectivement, dans l'urbanisme et la construction de l'époque, la Caisse, c'est une anecdote, mais c'est aussi la SIC a également créé la VEFA, que nous pratiquons tous aujourd'hui. C'est intéressant de voir que à cette époque-là, même dans les modalités opérationnelles, il y avait ces innovations.
Voilà, je rappelle juste à nos auditeurs, VEFA, si vous êtes des particuliers qui venez, de toute façon, vous êtes les bienvenus sur Radio Immo, vente en l'état futur d'achèvement.
Et donc aujourd'hui, le rôle d'ICAD sur le quartier d'Orgemont à Épinay, eh bien, c'est de le reconstruire. Donc on est propriétaire, donc historiquement, vous l'avez compris, de 2200 logements. Et on en a vendu la moitié à un bailleur social. Et nous allons d'abord reloger, évidemment, 1100 habitants. Donc, vous imaginez l'investissement dans la durée que ça représente. Nous allons les reloger et puis ensuite démolir ces logements pour reconstruire un nouveau quartier doté de toutes les aménités et des services urbains, des équipements, etc. Et donc on va reconstruire 1500 logements, dont une partie, bien évidemment, de logements sociaux et logements intermédiaires. Donc c'est voilà une histoire qui illustre bien la ville inclusive et qui l'illustre aussi par un second propos qui est qui fait quoi dans tout ça. ICAD donc est le propriétaire des immeubles. Donc va avoir son rôle d'ensemblier et de promoteur dans la reconstruction de la ville sur la ville. Évidemment, tout ceci avec la ville d'Épinay elle-même, l'intercommunalité pleine commune, et l'ANRU est très évidemment partie prenante de ce site. Donc on va tous les uns et les autres, chacun dans son métier. Ça, c'est aussi quelque chose qui a le mérite d'être posé aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'à un moment, on mélangeait un peu tout. Aujourd'hui, chacun a son métier, chacun le pratique, mais on sait, et ça, c'est aussi peut-être une notion de cette ville inclusive, c'est de savoir travailler en multi-partenaires.
Frédéric, je ne vais pas vous affubler du côté geek ou techno, mais quand même, la techno, elle a une importance fondamentale. Elle est même une espèce d'ossature presque vertébrale de ces usages qui s'expriment. Il nous faut un socle. Quand vous entendez cela, justement, des réflexions sur l'urbanité, qui sont quand même extrêmement intéressantes, puisque aujourd'hui, on a une grosse difficulté. Il y a une circulaire, vous savez, qui est en France, qui a été adoptée, qui s'appelle ZAN, zéro artificialisation nette. Mmh. C'est-à-dire où on sait aujourd'hui qu'on ne pourra plus aller vers un étalement urbain. On sait que les Français aujourd'hui, même s'ils ont envie d'avoir un jardin, une maison, bah, ils ne pourront plus avoir les maisons qu'ils avaient à une certaine époque, etc. Sauf aller dans les territoires beaucoup plus éloignés des grandes métropoles. Comment la technique peut accompagner ces mouvements, à la fois anthropologiques, avec une maîtrise absolue des usages qui anticipe en permanence. Parce qu'il y a un an et demi avant que, effectivement, comme le disait Karine, cette tragédie sanitaire nous est tombée dessus dans le monde, puisque quand même, c'est pas neutre. Et avec Aminata, on connaît des personnes qui ont disparu. Voilà, je fais une petite pensée à Jean-Philippe Ruggeri, qui était un ami que j'aimais beaucoup. Par exemple, hein, qui était en pleine santé, 51 ans, il était chez nous... Quelques semaines juste avant sa mort. Quand on voit ces enjeux, les personnes ont découvert leur logement.
Oui, c'est extrêmement intéressant. En fait, Karine parlait tout à l'heure de tendances qui ont été renforcées avec cet épisode sanitaire. Moi aussi, je vais éviter le mot noir.
Des tendances qui étaient déjà là, peut-être, avant.
Qui étaient déjà là, clairement. Les tendances qui ont été accélérées, c'est quoi ? C'est tout simplement, on n'habite plus comme avant, on ne travaille plus comme avant, on ne consomme plus comme avant. Et ça interroge en profondeur la notion même, enfin l'usage des lieux qu'on a eu, qu'on a spécialisé en fait, dont on a défini des usages qui étaient assez ancrés quand même dans notre compréhension de la ville. On avait des lieux de commerce,
ça marchait bien,
des lieux de logement, des lieux de bureaux, ce qui marchait très bien. Puis ça s'est patiné avec le temps, c'est ce qui forme la ville finalement, c'est tout ce patin du temps qui fait que les usages se figent et évoluent. Et c'est ça qui, à vitesse grand V, est réinterrogé. Et alors c'est aussi ce qui fait que notre métier est passionnant, hein, collectivement, autour de la table. C'est qu'il faut chercher à comprendre ça et à accompagner ces transitions-là. Mais fondamentalement, nous, effectivement, on est un observateur et un acteur de ce phénomène numérique qui fait qu'on réinterroge l'usage des lieux. Alors, à la question, avant de répondre à la question comment la technologie peut accompagner ces changements, etc., finalement, c'est quoi une ville inclusive ou la ville demain ? Je pense que ça renforce la notion de la rendre désirable, c'est-à-dire que vraiment de se poser cette question, pourquoi, à un moment donné, dans sa journée, dans sa semaine ou dans son année, on va prévoir d'aller à tel ou tel lieu pour habiter, pour travailler, pour consommer ? Et ça réinterroge beaucoup cette notion de désirabilité des lieux, parce que si je prends, on est 13 acteurs dans le monde du bureau historiquement. Le bureau, on s'y rendait pour une raison très très simple, c'est qu'il fallait aller voir son patron, il fallait pointer, et puis il fallait trouver son ordinateur ou son outil de travail. Il était que là, donc c'était hyper simple. On allait là où on nous disait
d'aller. C'est fou quand on y réfléchit aujourd'hui.
Aujourd'hui, je pense, dites aux jeunes qui cherchent du travail, et si en plus ils ont des profils un peu attractifs, que c'est la raison pour laquelle ils iront au bureau, je pense que ça va les faire pâlir et surtout fuir. Donc ça réinterroge pas mal ce sujet-là. Sur le bureau, c'est extrêmement parlant. Sur l'habitat, je pense que ça l'est un peu moins. Mais si, on voit qu'on observe un peu des nouvelles migrations. J'adore Aminata quand elle en parle, et je pense qu'elle pourra rebondir. Mais on voit des migrations de Paris, de certaines zones parisiennes, vers des villes de province, parfois de qu'on appelle des villes moyennes. Alors, moyenne est un mot qui n'est pas très attractif ou désirable.
On va dire de taille moyenne.
De taille moyenne, voilà.
Des villes de 30 000 habitants aujourd'hui qui ont des courbes démographiques qui étaient négatives pendant des années, et depuis 2 ans, c'est juste incroyable.
Et donc ça, c'est assez passionnant. Et donc vient cette question, comment on accueille un peu ces nouveaux migrants internes dans ces villes qui étaient, dont l'usage avait été patiné, et qui finalement vont devoir réinventer un petit peu leur attractivité, etc. Et puis comment on accompagne toutes ces modifications. Ça appelle un certain nombre de choses. J'aimerais bien citer 2 éléments. Ça appelle un besoin d'infrastructure, tout ça. Le numérique, et puis l'épisode qu'on vient de voir, à quoi ça sert le numérique, hein? Ça sert à communiquer, donc ça sert à travailler, donc ça sert à faire l'école maintenant. Et on a vu que l'épisode récent, il a mis en lumière des très 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 fortes disparités, même en France, entre différents lieux et entre différentes catégories sociales. Mais même entre différents lieux. Donc, catégorie sociale, effectivement, il y a un effet pauvreté sur l'accès au numérique. Ça, je pense qu'on le sait. C'est dramatique. À l'heure où on parle de la connectivité comme un nouveau droit humain, Mais il y a aussi une disparité, une inégalité qui se crée du fait des lieux, des localisations. Et ça, pour le coup, ça se travaille un peu plus. Ça s'appelle de l'infrastructure.
Sur la déployer notamment de la fibre. Sur la connectivité, le déploiement. Exactement. De zones dans lesquelles on a des flux, etc. Et c'est vrai que c'est un sujet majeur. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on interroge les Français, les critères de choix ont changé. On voit, par exemple, exactement, que la connectivité prend une place extrêmement importante, que la notion de bien-être, le côté vertitude, la côté sécurité est descendue dans le ranking, en fait. C'est très intéressant. Alors qu'avant, c'était un sujet. Alors, comment vous, techniquement, dans votre métier, vous accompagnez? Parce que du coup, les gros opérateurs immobiliers, ce sont vos clients.
Exactement, ce sont nos clients.
Comment vous les accompagnez? Comment vous arrivez à les convaincre? Parce que ce que vous dites est juste. Le réveil a été brutal quand même pour certains avec le confinement. Il a fallu s'y mettre au visio, qui a révélé beaucoup de problèmes, notamment sur les modalités presque mentales des populations, des collaborateurs, à se mettre en télétravail. Comment vous l'abordez-vous?
Comment on aborde ça? On aide les grands décideurs immobiliers, les propriétaires et les promoteurs, d'abord à évaluer la connectivité, donc plus largement la qualité numérique de leur parc ou de leur projet, à l'améliorer et puis à la mettre en valeur, parce qu'à la fin de la journée, il s'agit de trouver une logique économique, il s'agit d'utiliser ces nouvelles propriétés qui peuvent être meilleures dans un bâtiment donné pour mettre en avant et mieux valoriser l'immeuble en question. Et donc on aide à faire cette transition-là avec un constat simple, c'est que la connectivité, c'est un peu comme la ville, c'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs. C'est pas le décideur et le propriétaire immobilier qui va assurer le service de connectivité dans tous les cas. Entre l'infrastructure de fibre optique déployée par, qui sont des travaux de génie civil, et vous qui êtes en train de naviguer sur Internet, il y a un certain nombre d'acteurs dans cette chaîne de valeur. Donc nous, on cherche à faire comprendre aux acteurs immobiliers quel est leur rôle et comment ils peuvent préparer leur patrimoine, comment ils peuvent préparer leurs immeubles à une meilleure connectivité.
Un exemple.
Voilà. Une entreprise qui s'installe dans des locaux, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'Internet fiable, très très fiable, sécurisé.
Je confirme.
À bas prix, ou à prix en tout cas compétitif.
Non, des prix bas.
Et elle a besoin de pouvoir bénéficier d'une connectivité en mobilité, parce que, je disais, on ne travaille plus pareil qu'avant, dans un bureau, on ne travaille plus assis au même endroit toute une journée. C'est juste plus possible. Donc on ne peut pas avoir un fil à la patte.
D'accord.
Ou même un fil à l'ordinateur.
On parle de mobilité à l'intérieur même du
dispositif.
D'accord. Voilà.
Et un exemple simple, la mobilité au sein des immeubles. On a fait récemment une étude qui montre qu'on a simplement 34% des surfaces d'immeubles de bureaux qui sont couverts par la 4G. Donc la plus grande zone blanche en France, c'est l'intérieur des immeubles. C'est pas,
cette étude, elle a été menée par...
Elle a été menée par nous sur la base des campagnes de mesures qui sont faites sur les immeubles, justement, qui cherchent le label Wayfair.
Extrêmement intéressant. Donc, en fait, les premiers à être finalement blancs, ce sont les immeubles mêmes de bureaux.
Exactement.
Quelque part.
Ouais. Parce que le 34%, pour fixer les idées pour les auditeurs, c'est à comparer aux 90%.
Votre métier, c'est un accompagnement. Donc, vous êtes une forme d'architecte, quelque part.
Alors, effectivement, on a architecturé un cadre qui permet de prendre en main le sujet connectivité qui, historiquement, n'était pas un sujet immobilier. Il n'y a pas un lot connectivité, historiquement.
Parce qu'il y a plusieurs disciplines dans votre façon de travailler. Qui
du coup, il y a
Donc vous faites du BIM adapté à votre métier, quoi, en fait.
On peut le présenter comme ça. Mais voilà, on a défini cette structure.
Oui, parce que vous n'avez pas une techno, vous avez plusieurs technos qui s'intègrent finalement dans un dispositif global. Et vous solutionnez les sujets de vos clients, en fait.
Exactement, on essaye de...
Au lieu d'avoir 10 interlocuteurs, j'ai que vous en face.
Il n'y a que nous en face pour avoir cette compréhension-là. Après...
Bah ouais.
Pour remplir les cases, pour apporter ce qui va effectivement améliorer les choses, pour apporter un service de connectivité dans un immeuble d'ICAD par exemple, il va y avoir besoin d'un prestataire. Mais tout comme quand il faut apporter de l'eau courante dans un immeuble, ce dont on ne se pose plus la question, il faut se rapprocher d'un concessionnaire et avoir des prestataires de services.
Est-ce que vous allez devenir un délégataire de service public, quelque part? Non, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on y est tous passés. Hein, vous êtes d'accord, Karine? Ce sont des sujets. C'est vachement bien, ce genre d'initiative. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans le corollaire, justement, c'est la question que je voulais vous poser, une réponse? Est-ce que la ville inclusive, ce n'est pas une réponse à des enjeux urbains dont les corollaires, dont les conséquences, sont justement une formidable créativité? Est-ce qu'on ne vit pas une période qui apparemment peut être un peu triste, parce qu'effectivement, c'est un peu tendu, un peu schizophrénant, un peu anxiogène. Mais est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de formidable et une ingéniosité rarement atteinte aujourd'hui?
Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est Jean Vierre qui fait la comparaison avec les années 20. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 20?
Voilà,
c'est au contraire, là, on va vivre une folie incroyable.
Oui.
On va vivre une folie incroyable, une créativité extraordinaire. C'est vrai qu'on passe peut-être quelque part d'anciens services urbains. Effectivement, tu parlais de l'eau courante, à des nouveaux services urbains. Et on voit aussi tous ces acteurs. Je veux dire, tout le monde se renouvelle, ça qui est absolument extraordinaire, y compris les anciens grands services urbains, effectivement, qui desservent, qui donnent de l'électricité, du gaz, de l'eau, etc., eux-mêmes se renouvellent. Donc on est dans cette transformation qui est absolument...
Est-ce que les chantiers d'ICAD sont aujourd'hui en mode BIM?
Oui, bien sûr, tous les chantiers.
Tous les chantiers en mode BIM. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, alors il y a le BIM, il y a aussi le BOS, le Building Operating System, qui est très prosaïque, qui est très intéressant. Souvent, ce que les personnes confondent, et c'est vrai que nous, quand on a travaillé sur ces sujets, on ne s'y attendait pas non plus. On pensait à un logiciel, tu vois, qui structure, etc. Alors qu'en fait, c'est une méthodologie, le BIM, et qui inclut aussi, qui transforme la mentalité. Ce que je trouve extrêmement intéressant. Et c'est la question que je voulais vous poser là-dessus, Karine. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'inclusivité, dans le mot inclusif, un mode opératoire qui fait en fait fonctionner les opérateurs urbains entre eux?
Oui.
Est-ce qu'on n'a pas atteint finalement...
Oui.
Est-ce qu'on n'a pas... Je vais vous donner un exemple. En 1840, 1850, avant la grande réforme urbaine, grâce à Rambuteau, pas grâce à Haussmann, mais grâce à Rambuteau qui avait préparé les plans pour que le préfet Haussmann les mette en œuvre, parce que souvent on pense que le préfet Haussmann était un architecte, il ne l'était pas, il a mis en œuvre une politique qui était déjà entamée. On travaillait sur un urbanisme à l'échelle du pâté de maison, ce qui fait qu'on ne pensait pas à la mobilité. Vous voyez, dans le quartier par exemple, on mettait 25 minutes pour faire le tour de la rue Réunion. 25 minutes. C'est incroyable. Après, on a inventé les passages, vous savez, pour aller d'une rue à une autre, parce que ça facilitait les transports, ça évitait de se salir. Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette inclusivité, dans ces méthodes, une optimisation de la façon dont on va grossir dans la vie, dont on va accueillir plusieurs de personnes? Parce que, justement, il va falloir densifier.
Oui, certainement, c'est sûr, c'est évident. On est aussi passé d'une... Voilà, les années 60, on les citait tout à l'heure. Les années 60, c'était la planification à outrance. Donc le zoning, donc les grands ensembles, les zones industrielles, etc. Tout ça, c'est en train d'être transformé. Ensuite, on est passé au projet urbain. Et puis aujourd'hui, on est passé à une labellisation un peu excessive. Et d'ailleurs, on est revenu un petit peu en arrière. On se dit, mais bon, à un moment...
Quand vous dites excessive...
Il y a eu une époque où, à un moment, on ne savait pas très bien comment aborder les questions environnementales. Aujourd'hui, on sait faire. Mais j'ai le sentiment qu'après cette période des années 90-2000, où on parlait beaucoup projet urbain, on a essayé de s'accrocher à des questions environnementales. On n'a pas bien su le faire. Aujourd'hui, on sait mieux le faire. Et on a trouvé des réponses qui sont... qui répondent effectivement aux besoins, avec cette fois des labels, mais qui fonctionnent, mais entre autres. Et puis effectivement, des notions aussi d'environnement sociétal, d'enjeux sociétal et de ressources de la ville en tant que ville-ressources qui sont présentes. Et aujourd'hui, effectivement, on pourrait peut-être imaginer, tout à fait, c'est vrai, on pourrait imaginer une espèce de carte radar dans laquelle on va retrouver les acteurs publics, privés, sans évidemment prendre la place entre guillemets de l'autre. Je veux dire, le rôle de la planification urbaine, c'est évidemment le rôle de l'élu et de la collectivité et des collectivités. Mais pour autant, on pourrait avoir effectivement une espèce d'écosystème.
Bien sûr.
Tu disais de poly.
Mais bien sûr. Polycentralité. Il y a un philosophe qui s'appelle Thierry Pacot.
Je sais pas si vous connaissez. Bien sûr, je le connais. C'était mon prof aussi.
Qui est un type extraordinaire. Il y a deux grands philosophes dans ce pays qui sont vraiment très bons et que j'aime beaucoup. C'est Philippe Simet et Thierry Pacot. Thierry Pacot, il dit qu'on vit l'apogée, en fait, une certaine forme d'apogée. Et quand il parle de la décision publique, il utilise un terme, vous le connaissez, il est très, très rentre-dedans. Il parle d'écologisation des conseils municipaux.
Oui, c'est un autre souci. Mais...
Parce que pour la décision publique, parce que quand vous parlez de planification, vous parlez d'aménagement du territoire.
Oui.
C'est de ça dont vous parlez. Aujourd'hui, alors c'est pas la question piège, mais comment on pense l'aménagement du territoire à l'échelle du quartier, à l'échelle du département, à l'échelle d'une région? Il n'y a pas un territoire qui se ressemble?
Oui, alors là, encore une fois, ce n'est pas à moi de répondre. Ça, c'est une question publique. C'est pas,
mais pour autant... L'acteur privé, il est une aide.
Oui, et nous, il est une aide à la décision, et il est là aussi pour, je dirais, d'abord, un projet, il faut qu'il y ait une adhésion politique. Donc il faut effectivement qu'il y ait une mouvance, il faut que ce soit porté politiquement. Et ensuite, on est là aussi pour, tout en ayant un débat évidemment constructif, sa fabrication d'avis, mais on est là pour répondre à la demande aussi des élus, tout simplement. Donc oui, alors l'écologisation, comme dit Thierry Paco, oui, elle est réelle, et effectivement, aujourd'hui, on est là-dedans, où on a donc effectivement une réduction des permis de construire obtenus, puisqu'on est à près de 30% cette année de permis de construire qui n'ont pas été obtenus.
C'est catastrophique.
On est dans ce changement-là. Mais je pense que la réalité économique aussi...
Parce que le problème, c'est qu'il faut quand même loger les Français, je veux dire.
Il faut quand même loger les Français.
Il y a eu moins de 300 000 logements fournis cette année. C'est les mêmes chiffres qu'il y avait dans les années 70, sauf qu'il y a 10 millions d'habitants de plus. Voilà. Et que vous êtes d'accord que la compression par la réduction de l'offre de logements neufs emmène les Français sur du bâti ancien et mécaniquement les prix augmentent.
Exactement, et puis il faut aussi créer de l'emploi.
Voilà, créer de l'emploi, et comment on fait pour payer des loyers à Paris au mètre carré qui peuvent atteindre 41 euros du mètre carré? Voilà, je veux dire, cette question, il faut les poser. Sauf si on veut que des gens très très riches dans Paris, et qu'effectivement, on peut plus de classe moyenne, qu'on quitte Paris. Moi, j'ai quitté Paris parce que j'avais plus les moyens de vivre à l'intérieur. Voilà, clairement. Donc, ça aussi, la question que je voulais vous poser, Frédéric. Ces questions, aujourd'hui, que l'on se pose dans l'immobilier, qu'on ne se posait pas, il y a 10 ou 15 ans, quand on faisait du business dans l'immobilier, on pensait au cash flow, aux rentabilités. Et aujourd'hui, on a intégré, d'un point de vue philosophique, et d'un point de vue social, voire même sociologique, des paramètres qui aident, effectivement, à réunir business, développement, avec les soucis de la ville, les soucis citoyens, etc. Je trouve ça très bien. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Comment, justement, de votre point de vue, cet accompagnement peut s'opérer avec les technologies, dont souvent les personnes elles-mêmes sont un peu désorganisées? Moi, je suis vice-président d'un mouvement qui s'appelle French PropTech. Et ce que nous disent les usagers, la plupart du temps, c'est le manque de lisibilité par rapport à une offre qui est pléthorique. Comment on fait pour faire les bons choix? Parce que c'est ça que les clients vous demandent à vous, Frédéric.
Oui, moi j'aime bien le concept d'écologisation. Le mot est difficile à prononcer.
Oui, écologisation des conseils municipaux.
Je vais plutôt juste rappeler quelque chose de simple. Alors déjà, faire la ville, quand même, c'est assez complexe, c'est passionnant. Heureusement qu'on a des grands faiseurs. Mais faire la ville, c'est un écosystème. La fabrication de la ville, c'est un écosystème. Et qu'est-ce que c'est un écosystème? C'est des chaînes alimentaires. C'est finalement des éléments qui se rendent service les uns aux autres de façon très, très imbriquée, compliquée. Dans la ville, dans la fabrication de la ville, c'est un peu pareil. Donc, ramener à nos modèles économiques de la fabrication de la ville, il y a quelque chose de simple, c'est qu'il y a... Il y a effectivement des nouvelles techniques qui arrivent, des nouvelles technologies qui arrivent. Il faut tout simplement que ça se fonde dans l'écosystème de la fabrique de la ville et que ces start-up ou même pas start-up d'ailleurs, intervenants qui viennent d'autres industries comme le numérique, sachent se fondre avec cette fabrique de la ville. Ça, c'est difficile. Ça, c'est ce qu'on appelle une transition. Ça, c'est compliqué. Mais fondamentalement, les techniques, le numérique, etc., faut bien rappeler, ça doit être au service des grands enjeux urbains qui ne sont pas d'avoir plus de tech, qui sont d'aider à loger mieux les gens pour moins cher, qui sont d'aider peut-être à rendre plus flexibles aussi les environnements urbains, parce qu'on voit bien qu'il y a
ou même réversibles, bureau devenant logement, des hôtels reconvertis, puisqu'effectivement les hôtels n'ont plus rempli les mêmes fonctions, qui deviennent véritablement des lieux de vie. On parle même aujourd'hui, alors le co-living en fait partie, les espaces partagés et la mobilité partagée aussi.
La mobilité partagée, le vieillissement de la population qu'il faut aussi continuer à accompagner, qui est un vrai sujet dans le pays.
Avec l'habitat intergénérationnel par exemple.
Voilà, donc il y a plein d'enjeux en quoi les technologies elles peuvent répondre. Vous avez cité le BIM tout à l'heure, ça c'est hyper intéressant. Pour la réversibilité, je suis à peu près convaincu que le BIM est dans l'équation.
Évidemment, parce que
au moment, dans 20-30 ans, où il s'agira de...
Oui, mais Frédéric, il n'y a qu'un quart des chantiers en France qui sont en mode BIM.
Alors après, il y a probablement un enjeu
faciliter la pénétration. Vous êtes d'accord, Karine?
C'est en train de venir. Maintenant, on est tous en train de... d'ici quelques mois.
Mais aujourd'hui, dans la commande publique, par exemple, dans les appels à projets, si on n'est plus en BIM, on n'a pas le projet, on est d'accord?
On est d'accord.
Ok. Donc finalement, c'est par la contrainte que les choses finalement...
C'est une vraie question. Comment on fait évoluer nos façons de faire? Il y a toujours plein de leviers. Il y a toujours un peu la pression du marché, des attentes des utilisateurs. Ça existe. Mais Mais dans la ville, c'est pas si facile que ça à comprendre, en fait, l'évolution des attentes. Quand on conçoit et qu'on construit, qu'on fabrique un logement, finalement, on croit quand même qu'on sait un peu ce qu'on fait. Enfin, je vais pas dire à ICAD que ICAD sait pas ce que c'est que de faire un logement.
Alors, c'est pas parce qu'ICAD est présent sur le plateau, mais je peux vous dire qu'ICAD est un moteur en matière d'innovation.
Mais bien sûr.
Non, mais c'est vrai, dans le paysage immobilier. Vous avez été à l'origine de beaucoup de choses. Certaines fois, vous avez même... Absolument. Mais certaines tendances, d'ailleurs, où on vous attendait au tournant, justement, parce que vous avez bousculé les lignes. D'ailleurs, ça révèle bien un peu le mental aussi d'un type que je connais bien, qui s'appelle Olivier Vignol, hein, qui est à l'état de DICAD, qui est quand même pas tout à fait dans les modèles adaptés, en tout cas, qui a une vraie vision d'avenir. Mais c'est important qu'on ait des acteurs, justement, comme ICAD. Mais je peux citer le cas de Jessina avec Méga Brunel sur des sujets aussi équivalents. Est-ce que ça vous rassure de voir des locomotives qui ont cette taille accompagner ce type de mouvement?
C'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que je pense que le changement viendra d'eux. Ça veut dire qu'il faut voir comment s'imbriquer avec ces grands faiseurs de la ville et bien comprendre en quoi, avec une nouvelle solution, on leur est utile aussi. Pour revenir à notre sujet historique qui est très simple, celui de la connectivité, c'est faire comprendre en quoi c'est maintenant une nouvelle valeur pour les actifs et qui va... qui va être absolument nécessaire. Je pense qu'on est vraiment sur un indispensable. Plus, si on élargit un petit peu le débat, c'est en quoi toutes les nouvelles capacités qu'on a avec les technologies permettent de, encore une fois, répondre à leurs enjeux. Les deux acteurs que vous avez cités, ICAD et Jessina, ils sont passionnants parce que récemment, à quelques semaines d'intervalle, ils ont pris des engagements environnementaux absolument phénoménaux.
Ah ben, je vous donne un exemple. 5 milliards, tout le portefeuille obligataire de Jessina a basculé dans ce qu'on appelle les « green bonds ». Vous connaissez les green bonds. Et c'est quoi les green bonds? Eh bien, c'est la taxonomie européenne. Et la taxonomie européenne a été mise en place, là, en 2021, de façon incitative. Elle deviendra obligatoire dans la classification. La taxonomie, c'est un mot qui désigne des classifications qui rendent finalement la finance environnementale et durable. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus une allocation d'actifs, un investissement qui ne se fera sans appliquer un cahier des charges strict dans le règlement taxonomique européen. Et je trouve que c'est formidable. Et la connectivité est un moyen d'émancipation et de désaliénation, même sociale, parce qu'elle permet cette liberté dont vous parlez. Elle permet à des populations de taille moyenne de pouvoir effectivement avoir les mêmes enjeux, les mêmes envies que les autres aussi. C'est une vous êtes d'accord, Minata? C'est une formidable mesure d'égalité sociale, je trouve.
C'est une formidable mesure d'égalité sociale et
à condition de maîtriser ces données. Hein,
Et encore une fois, effectivement, c'est d'ailleurs une des définitions qu'on peut donner, hein, de la ville inclusive. On l'a pas définie, notre ville inclusive. Je pense que c'est un concept qu'on manipule tous
mais
autour du plateau.
Mais c'est bien qu'on la définisse pas, qu'on garde ce débat, ces idées qui se confrontent.
Mais effectivement, souvent, bon, c'est l'inclusion à l'inverse de l'exclusion. Donc c'est donner accès à tous aux mêmes capacités. Voilà, c'est peut-être une façon de définir la chose. Voilà, la connectivité fait partie de ces éléments-là. Mais pour revenir, éclairer le débat, l'environnement, bon, c'est la raison pour laquelle je suis venu dans cette sphère immobilière, ça passera par des acteurs qui prennent des engagements très très forts et qui auront besoin de solutions pour respecter ces engagements. Je suis à peu près sûr que l'équation n'est pas complètement écrite. Comment on va faire pour réduire de X d'ici 2050, c'est pas complètement écrit. Et donc c'est génial d'avoir eu ces visionnaires qui se sont inscrits de façon proactive dans le temps et qui auront besoin de choses qui feront la ville, qui auront besoin de réseaux de chaleur urbain avec des énergies décarbonées. Ce sera probablement pas à l'échelle du bâtiment que tout ça va se régler. Qui auront besoin de savoir échanger l'électricité avec le réseau. Et ça, derrière ça, il y a toujours de la technologie pour
d'être sur des circuits, par exemple l'économie circulaire qui est dans le règlement de la taxonomie aussi est des éléments importants. Je vais citer ICAD encore une fois, parce que je vais citer ICAD, mais je peux citer aussi FH Immobilier. J'ai participé au lancement d'un écoquartier qui s'appelle La Vallée à Châtenay-Malabry avec une ferme urbaine. Voilà, vous êtes partenaire. On a fait le centre. C'est magnifique parce que en fait, on a une friche urbaine dans laquelle il y avait l'école centrale, avec des bâtiments qui étaient clairement obsolètes, et une reconfiguration du quartier, en fait, et des lieux de vie, un vrai lieu de vie, un lieu de culture aussi, parce que c'est important, et c'est la question justement que je voulais vous poser, parce qu'on parle de technique, vous avez raison. La technique, c'est le support qui accompagne le mouvement, d'accord ? C'est l'ossature qui accompagne le mouvement anthropologique. Comment faire la jonction entre bien vivre d'un côté, le bien loger, c'est deux choses différentes, bien vivre et bien loger, mobilité et lieu de travail. Parce que tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de la ville du quart d'heure, d'essayer aussi de réfléchir aussi emploi et logement. Parce qu'effectivement, quand on fait 2 heures de route le matin pour aller bosser et 2 heures de route le soir, franchement, on n'a pas une vie de qualité, quoi.
J'ai envie de dire que la solution, on crée des lieux de vie, c'est des lieux de vie en fait. Ce sont des lieux de vie. Il faut qu'on crée des lieux de vie. Donc c'est l'alchimie, c'est l'écosystème dont tu parlais. Effectivement à une certaine échelle d'un quartier, on peut amener ses services, on peut cocher des cases entre guillemets. Effectivement, on va créer de l'emploi, on va permettre le mieux logement, bien évidemment, et la meilleure mobilité. Mais je veux dire, avant tout, c'est créer des lieux de vie, et puis après cette alchimie, c'est faire la bonne équipe.
Karine, est-ce que c'est réversible? C'est pas réversible, ce mouvement qui transforme la ville.
Ça n'est pas réversible.
Est-ce que le public aujourd'hui, c'est ce qu'il souhaite, les usagers?
Oui, alors j'allais y venir, parce qu'effectivement, on a peu parlé des usagers, des personnes pour lesquelles, dont on fait partie, évidemment, pour lesquelles on fait tout ça. Et oui, évidemment, on est dans ce mouvement, et ce mouvement, il va continuer.
Alors, on va parler, si vous voulez bien, dans la dernière partie, de l'immobilier tertiaire et de la place, justement. C'est un peu la dent creuse en ce moment, l'immobilier tertiaire. Ça dérouille sévère, effectivement, on pense à des questions, etc. Mais je rassure quand même tout le monde, le logement n'est pas mort, bien évidemment, puisqu'il y a une renaissance, une prise en compte du logement liée aussi à ce qui s'est passé. Mais le tertiaire non plus. Il n'y aura pas la disparition des bureaux, comme on peut parfois l'écrire, etc. Il n'y aura pas des quartiers qui vont devenir des no man's land, style la Défense, ou certains. Donc il y a des quartiers aussi qui se réinventent. Je vous propose que nous écoutions Patrick Amicot, qui est adjoint au maire de Marseille, à qui on a posé une question simple. C'est quoi pour vous une ville inclusive? On l'écoute.
Elle part d'une idée quand même qui est simple, c'est que la ville, elle existe. Et c'est déjà important de dire ça, parce que la ville inclusive, elle suppose que nous ne sommes pas en permanence et tout le temps dans des dispositifs urbains qui sont des dispositifs d'évolution rapide, d'opérations d'aménagement lourdes dans lesquelles on démolit des quartiers entiers et dans lesquels on fait évoluer un peu au forceps les choses tant sur le plan technique que sur le plan sociologique et social. Donc ça, c'est un premier concept. Donc ça veut dire, par exemple, que même si Marseille aujourd'hui est dans une situation absolument catastrophique en matière de logement indigne ou en matière de besoin en logements sociaux, les questions qui sont liées à la fois à la réhabilitation du parc, à regagner le parc aujourd'hui vacant, à travailler sur les problématiques de densité de l'habitat, sont des questions qui se travaillent vraiment de manière extrêmement précise et dans des échelles tout petites pour arriver justement à garder son caractère, son harmonie, sa vision de la ville telle qu'elle existe aujourd'hui, sans nier que ces évolutions se produiront, mais qu'elles se produiront dans une échelle qui sera certainement maîtrisée et plus longue, et pas sur des évolutions extrêmement brutales comme ont pu les provoquer des opérations d'urbanisme qui ont été menées un petit peu au forceps et qui certes ont amené à des choses assez remarquables à certains endroits, mais qui à l'inverse créent aussi souvent des dégâts sociaux qu'on maîtrise difficilement et dont on voit les conséquences longtemps après. Donc ça, c'est vraiment une idée générale qui est de dire on n'est pas dans une logique de conservatisme absolu de la ville telle qu'elle est aujourd'hui, mais on prend le temps de se poser la question de l'évolution progressive de la ville et pas uniquement en faisant une ville par le biais des procédures d'aménagement. Ça c'est vraiment un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la proximité. Alors, la proximité dans la ville inclusive, c'est aussi la proximité entre les lieux de travail et les lieux de résidence. Donc effectivement, on essaie d'éviter au maximum d'avoir des lieux de travail, des zones de bureau trop éloignées des lieux de résidence, même si c'est quelque chose que tout le monde met en avant depuis des années et des années. On a vu quand même que, même dans des opérations comme Euroméditerranée ou autres, la tentation de la zone de bureau, la tentation de la zone économique existait encore, même dans les années 90, alors qu'on voit aujourd'hui que par le développement de tas de modes de fonctionnement, que ce soit le télétravail ou autre, la notion de proximité du lieu de travail peut être très différente. Alors ça ne signifie pas qu'il faut que tout le monde télétravaille, absolument pas, mais par contre, ça signifie qu'il faut se poser la question des modes de transport et des modes d'accès au lieu de travail et à la proximité. Le troisième aspect, c'est que la ville, elle est face aujourd'hui à des défis et des adaptations nécessaires en matière environnementale et climatique. On ne peut pas continuer à raisonner sur la ville minérale telle qu'elle existe, même si on a pu dire, et ce qui était vrai, et ce qui est toujours réel si on regarde les choses de manière historique, que les villes méditerranéennes sont des villes avant tout minérales. On est confronté aujourd'hui à de telles problématiques climatiques qu'il faut trouver d'autres solutions qui sont dans des problématiques d'urbanisme bioclimatique, c'est-à-dire savoir travailler sur tout ce qui relève des circulations d'air, par exemple. Dans une ville comme Marseille, c'est extrêmement important. De la végétalisation de tous les espaces qu'on peut trouver, soit en espace libre, soit en accompagnant la végétalisation d'espaces déjà bâtis. Alors ça peut être de la toiture terrasse, ça peut être du jardin partagé, ça peut être des plantations qui existent un petit peu partout dans les rues aujourd'hui et qui sont aidées par la ville. Mais c'est aussi un travail sur les équipements publics, par exemple avec la revégétalisation des cours d'école, voilà, hein, la désimperméabilisation des cours d'école, par exemple, qui permet d'avoir un environnement qui permettra à terme d'éviter d'être obligé de mettre des climatiseurs partout, parce qu'on aura des pôles verts qui vont nettement rafraîchir les choses.
Extrêmement intéressant ce que nous dit Patrick Amicot, qui en fait reflète bien les problématiques, etc. On a écouté également Yann Brossa, adjoint à la maire de Paris, qui nous dit en substance les mêmes choses. Il nous reste quelques minutes pour nous quitter. Je voudrais qu'on fasse une conclusion autour de ces deux témoignages éminemment politiques et surtout très engagés. Ce que nous dit Patrick Amicot, Karine Robert, reflète exactement les enjeux aujourd'hui auxquels doivent faire face les métropoles. Marseille plus que tout autre, mais bien évidemment les métropoles.
Oui, je retiens dans ce qu'il a dit aussi la polycentralité. Il a vraiment, et tu l'as dit tout à l'heure, et c'est vraiment ça, c'est cette mixité. Et puis après, il dit aussi, effectivement, et là, ça rejoint ce que tu dis, effectivement, quelle mobilité, le numérique va prendre tout son sens dans cette mobilité. Donc à la fois, il faut une ville de proximité, avec ses services et ce lien social, y compris le lien de voisinage, on a beaucoup parlé durant la période qu'on a vécue. Donc il faut ces mille et un villages marseillais, d'ailleurs. Il les faut partout, ils sont à Paris aussi. Donc voilà, cette polycentralité, c'est le mot que je retiens en tous les cas.
Moi, je pense qu'on tient quelque chose qui, finalement, est tout à fait compatible avec l'esprit aujourd'hui des usagers pour qui on se bat, hein, clairement. Frédéric Motta.
Oui, tout à fait compatible avec l'esprit de, je pense, que les gens attendent. Polycentralité, mixité des usages, qui seront aussi compatibles avec le fait de travailler beaucoup plus loin qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, notre matrice, c'était un peu entre 1 heure et 2 heures de voiture. Probablement, maintenant, ce sera soit 15 minutes à pied, soit 2 heures en train. Selon les choix de vie des uns et des autres. Et puis fondamentalement, quand même, il faudra continuer à chercher à comprendre ces usages, ces attentes qui vont continuer à évoluer, je pense, à vitesse grand V. Je pense que l'accélération n'est pas finie. Bon, là encore, il y a des techniques qui aident à cette compréhension et qui peuvent être utilisées utilement. Je pense que c'est une des briques des solutions aussi.
Ça va nous donner un City by Simi, un Simi ou en couleur avec les débats n'est-ce pas, Aminata ?
Exactement.
Ce que je retiens de tout ça, et pour cette conclusion de ce numéro 2 de la deuxième saison Simi News, c'est qu'effectivement, on a posé les bonnes problématiques. Et il y a une osmose, une vraie convergence de vues et d'objectifs de la puissance publique et des acteurs privés.
C'est un dialogue. Et le dialogue va se poursuivre parce que les choses vont continuer encore à évoluer. Les usages vont s'adapter à la vie qu'on a aujourd'hui et aux besoins. Donc, on consomme différemment et c'est aussi grâce à cette connectivité. Et les débats vont continuer au CIMI. D'ailleurs, ICAD, au-delà d'avoir un énorme stand au CIMI, va parrainer. Ah, bien sûr, mais parraine le cycle bas carbone. Donc, en fait, on est vraiment dans les sujets. Et WiredScore, au City by CIMI, parraine le parcours Habiter Vivre. Donc, on est vraiment dans le sujet de l'inclusion.
Voilà, un sujet qui va être bien sûr revu dans le numéro 3 de la saison 2 du CIMI News, où on vous parlera bien évidemment de ce sujet. Le podcast, plus exactement le vidéocast, mais aussi le podcast qu'on a influx en son, selon si vous êtes en mobilité, vous pourrez le réécouter sur le site de Radio Imo, mais aussi sur tous les agrégateurs de podcasts, y compris Orange, Free, Podbean, Podcloud, iTunes et d'autres, bien évidemment, pour justement réécouter. Si vous voulez, bien évidemment, réagir sur le programme, vous pouvez le faire. Bien évidemment, on vous dit toujours la même chose. Ce sont des sujets qui mériteraient d'être débattus pendant des heures, et c'est ça l'avantage de notre métier. Ce sont toujours des sujets à épisodes, puisqu'on parle de villes inclusives, on parle de villes connectées, on parle de villes mixtes. On en reparlera bien évidemment jusqu'en décembre pour le City by Simi et au Simi auquel on vous attend très nombreux, bien évidemment. On sera présent nous aussi, d'ailleurs, Radio Imo, pour vous faire partager donc tous les sujets, surtout dans la période actuelle. Un grand merci à vous, Karine Robert. J'ai pris beaucoup de plaisir à ce que vous soyez avec
merci
nous.
À vous.
Je rappelle que vous êtes directrice de Synergie Urbaine by ICAD. On dit by ICAD. Hein.
Voilà.
Yes. Synergie Urbaine. Vous revenez, vous me faites plaisir, vous revenez.
Avec plaisir.
Voilà, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Et si je peux faire passer un mot, mettez des femmes à la tête de ces entreprises. On en a besoin. Voilà, je l'ai rappelé et je l'ai bien placé. Frédéric Motta, directeur de Wired Score, directeur général France pour la Belgique et aussi le Luxembourg. Accessible sur Internet aussi. Il suffit de taper Wired Score. D'ailleurs, je propose à notre ami Jason, mon ami Jason, est-ce que tu peux mettre l'URL de votre site internet aussi pour qu'on puisse aussi découvrir ce que vous faites. C'est bien ce que vous faites parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. Je suis sûr que vous parlez un langage très simple à vos usagers parce qu'effectivement, quand je parle à des techniciens de la connectivité, j'ai mal à la tête au bout de 3 secondes. Donc ce qui est bien, c'est que ce qu'on vous avait expliqué, on a tout compris. Je pense qu'aussi la pédagogie fait parler de fait partie aussi de notre volonté d'associer aussi, parce que c'est de plus en plus le cas, les populations à réfléchir sur la planification, la concertation. Je pense que c'est un signal qui est très positif, qui a été envoyé. Voilà, on vous souhaite de belles vacances à toutes et à tous. Reposez-vous bien, on a une rentrée haute en couleurs, n'est-ce pas Aminata?
On attend la rentrée avec impatience de se retrouver aussi, tous voilà. Aussi.
Voilà, on va tous se retrouver pour se faire des gros câlins. On a envie de se rapprocher. Non, je caricature. Il faut quand même préserver, bien sûr, les distances sociales. Et que, voilà, surtout, faites-vous vacciner. Vous êtes tous vaccinés, j'espère. Voilà.
C'est bon.
Voilà. Ou en cours. Ça y est, c'est fait pour vous, Aminata ?
Sûr, c'est fait.
Voilà, c'est fait. Et il faut inciter les personnes, effectivement, à faire attention aux uns comme aux autres. À très vite.
Retrouvez Simi News, le magazine de l'immobilier d'entreprise, en podcast sur Radio Immo et le site du Simi et sur toutes les plateformes de podcast habituelles.